Table ronde sur un sujet majeur, hein. Quel enseignement de l'économie à l'université? Vous savez, je pense tous que Cyril Hawker, président de HESS à côté de moi, a remis le rapport qui s'appelle « L'avenir des sciences économiques à l'université en France » à Madame la secrétaire d'État d'enseignement supérieur et à la recherche le 5 juin. Dans un contexte, à mon avis, qui est quand même particulièrement intéressant, puisqu'on a des réflexions et des débats sur l'enseignement de l'économie qui se sont beaucoup développés à l'échelle internationale. L'INET participe à ces débats. On a une session spéciale de la Royal Economic Society Conference sur le sujet. VoxEU rencontre régulièrement de ces débats. On voit qu'en France se développe aussi autour du collectif PEPS, des analyses de l'IDIES, pas mal de réflexions sur le sujet. Et donc pour réagir aux analyses et aux propositions du rapport de Pierre-Cyril Hawker, on a le plaisir d'avoir d'un côté Olivier Favreau, qui est au conseil d'administration de la FEP et professeur à Paris-Ouest Nanterre. Non. Et de l'autre côté, Alain Tranois, vice-président de l'Association française de sciences économiques et directeur de l'AMSE, entre autres.
Directeur d'études à
l'HESS. Et directeur d'études à
l'HESS. Je ne vois pas trop à côté.
Si on regarde ce rapport, je crois d'abord qu'il y a un effort particulier auquel moi j'étais particulièrement sensible dans ce rapport, qui est la réunion de données. Il y a plus de la moitié du rapport qui est constitué de données, qui traitent des questions d'enseignement, de recherche et de la profession. Et donc je pense que c'est une base extrêmement intéressante, parce que la partie analyse est beaucoup courte, synthétique, et mérite certainement les développements, et qu'on peut aussi s'appuyer très très largement sur ces données. Et je vous propose qu'on concentre les échanges de vues aujourd'hui sur les questions d'enseignement et d'organisation de la profession, et qu'on laisse pour la suite la réflexion peut-être sur le sujet concernant la recherche. Et le rapport, d'ailleurs, à mon avis, sur le sujet est, dès son début, bien dans le cadre qu'on s'est fixé, puisqu'il commence par analyser les critiques sur les enseignements et les modes de recrutement des enseignants-chercheurs. Et il me semble que, premier temps, si on regarde du côté enseignement, il y a un certain nombre de notions qui sont développées et qui structurent ce sujet sur l'enseignement. On nous parle dans le rapport de développer une identité disciplinaire en économie, et donc à charge à nous tous de développer, paraît-il, cette identité. On nous dit qu'il faudrait avoir une formation qui soit davantage centrée sur les étudiants, qu'il est nécessaire d'offrir des perspectives interdisciplinaires, qu'il faut réaliser une spécialisation progressive, et qu'il faudrait éviter les impasses du curriculum unique. Beaucoup d'ambitions sur lesquelles il serait bien qu'on commence par quelques précisions par le responsable du rapport et voir quelles sont les réactions ici des deux intervenants.
Bon, merci. Merci d'abord de m'avoir invité à présenter ce rapport. Bon, ce rapport est né dans un contexte qu'on a rappelé. Pas mal d'interrogations liées à la crise, mais également des interrogations internes à la profession en France qui sont anciennes, et puis un contexte qui, à mon sens, c'est le premier qui doit nous interroger, qui est une forme de désaffection des étudiants pour la filière sciences économiques. On a essayé de quantifier cette désaffection, c'est pas extrêmement simple, parce que il y a des problèmes de nomenclature, on sait que dès qu'on veut faire des statistiques, si la nomenclature change, on est tout de suite embêté, et donc en particulier par rapport à la gestion, mais la tendance, me semble-t-il, c'est quand même que les effectifs déclinent un peu plus en économie que dans nos disciplines. Alors est-ce qu'il faut appeler ça une désaffection? Évidemment, en soi, c'est déjà presque une prise de position. Il me semble que entre ce recul quantitatif et un certain nombre de critiques qui sont faites de manière récurrente par un grand nombre d'associations étudiantes, et par ailleurs, il faut le dire aussi, la faiblesse des moyens qui sont disponibles pour essayer de faire mieux, on a sans doute quelque chose de réel. Alors, en un sens, le simple fait de demander au président de l'école d'études en sciences sociales de faire un rapport sur les sciences économiques prédéterminait un petit peu la réponse, puisque j'appartiens à une institution dans laquelle les frontières disciplinaires ne sont affirmées que pour tenter, non pas de les surmonter, mais de développer le débat entre les disciplines. Donc, on pouvait s'attendre un petit peu à ce que j'allais dire, et j'ai là-dessus à ce qui, moi, me semble la chose la plus importante pour les étudiants, mais aussi, donc, directement pour nous tous comme enseignants, c'est, à mon avis, la nécessité de rénover très profondément les premiers cycles et d'utiliser à cet effet l'autonomie qu'on promet aux universités. Je dis qu'on promet parce que quand il s'agit très concrètement de la mettre en œuvre, disons qu'il y a encore des habitudes au sein du ministère de l'enseignement supérieur qui ne sont pas complètement en harmonie avec sa promesse. Mais cette promesse, c'est inventer des nouveaux cursus qui seront adaptés aux étudiants. Et qu'est-ce que je propose ? Je propose très simplement de donner aux étudiants à l'université la même ouverture en termes de diversité de questionnement que ce qui est offert aux étudiants, que ce qui est offert aujourd'hui aux étudiants qui sont dans les classes préparatoires, dans les écoles de commerce, en fait dans beaucoup d'endroits dont l'insertion des étudiants est plus aisée et dont les étudiants ont un sentiment de mieux comprendre le monde autour d'eux grâce à l'enseignement. Alors, loin de moi l'idée de dessiner quel doit être le curriculum qu'il faut mettre en place en licence. Je pense que c'est la variété des solutions qui seront inventées dans chaque établissement qui sera le véritable progrès en la matière. Mais de manière générale, mon sentiment est que les étudiants apprendront d'autant mieux à apprécier les vertus de notre discipline qu'ils auront compris ce qu'elle a de spécifique par la confrontation, par la comparaison avec d'autres. Ces autres peuvent être diverses. Divers au sens où dans le même curriculum il peut y en avoir plusieurs, mais ce que j'espère, mais aussi ça peut ne pas être la même combinaison offerte d'un établissement à l'autre. Et en fonction des moyens, des ressources pédagogiques dont on peut disposer à tel ou tel endroit, les universités ont des compositions variées, des points forts différents, et elles peuvent chacune monter des choses originales, et je pense que c'est une des choses qu'il va falloir faire. Mais ce qui me semblerait raisonnable, c'est que des étudiants qui veulent faire de l'économie commencent en particulier en première année de licence, dans les sciences. Alors, c'est pas une idée qui est révolutionnaire, ça fait des années qu'on parle de la diversification des cursus de licence, sauf que c'est quand même très peu mis en place réellement, pour des raisons qui sont liées en partie à l'organisation par l'UFR de l'université qui ne donne pas beaucoup de place aux coopérations transversales qui restent compliquées à mettre en œuvre. Il me semble que si les étudiants comprenaient comment pense un sociologue, un historien, un politiste, un philosophe, un juriste, un biologiste, etc., ou un certain nombre de ces gens-là, ils comprendraient d'autant mieux comment pense un économiste si on faisait pour chacune de ces disciplines une espèce de cours sur qui chercherait à expliquer ça. Et puis ensuite, au sein de chaque discipline, pour montrer comment on pense ça, eh bien, il faut différents éléments qui peuvent être un peu plus d'assistance sur les méthodes propres, des éléments éventuellement de l'épistémologie ou d'histoire de la discipline qui permettent de comprendre comment on en est venu à considérer que c'était ça une approche scientifique et efficace dans cette discipline, ou éventuellement quelles étaient les approches scientifiques et efficaces dans une discipline, et en les comparant avec ce qui se fait dans les disciplines voisines. Il me semble que ceci permettrait, pour les étudiants qui s'arrêtent après 3 ans de licence, d'avoir une variété d'outils intellectuels à partir desquels regarder la réalité. Et évidemment, il faut que dans chacun de ces cours, on n'ait pas simplement quelque chose de théorique, etc., mais qu'on parte de questions concrètes. Et... Alors, il y a un collectif d'étudiants, PEPS, qui a proposé une maquette que je ne veux ni valider ni invalider, qui veut partir d'objets et confronter différentes disciplines sur des objets. C'est une manière de faire, mais il y en a bien d'autres. Chaque discipline peut aussi décider de prendre l'objet qu'elle veut pour commencer à susciter l'intérêt des gens. Et après tout, il y a de fortes chances pour que les disciplines aient des préférences différentes en la matière. Mais on peut imaginer toutes sortes de manières de faire. Je ne vois pas de raison de privilégier a priori quelque chose. On doit faire un certain nombre d'expériences en la matière. Bon. Et puis, à mesure, un peu plus de spécialisation, et les gens pourraient finir donc une licence en ayant à la fois une certaine culture sur les différentes approches disciplinaires, une certaine culture empirique, je vais y revenir dans un instant, et puis une spécialité qu'ils ont acquise progressivement en deuxième et surtout en troisième année, avant d'acquérir réellement un outillage scientifique pour ceux qui voudraient devenir des économistes, en quelque sorte, professionnels, durant le master. Et c'est, à mon avis, en réduisant la part des outils techniques en première, deuxième année de licence, pour les transférer vers le master à un moment où les gens sont motivés et savent pourquoi ils acquièrent des outils techniques, et donc le font avec une plus grande facilité, qu'on facilitera la vie des étudiants et leur succès. Alors, un point sur les éléments empiriques, moi je suis convaincu qu'il faut remettre beaucoup plus de motivation empirique dans les enseignements. Alors, beaucoup plus, je m'aventure un peu parce que il y a un nombre de collègues qui le font. Et c'est extrêmement difficile de savoir ce que font les uns ou les autres parce qu'on a, on a pas d'enquête précise nous disant ce qu'il y a dans les cours de tous nos collègues. Et d'ailleurs, c'est regrettable. Mais ce dont se plaignent un certain nombre d'étudiants, c'est qu'on leur enseigne d'emblée des éléments théoriques dont ils ne comprennent pas du tout à quoi ils s'accrochent. Ça peut s'expliquer par des raisons, à mon avis, de surcharge des services des enseignants qui font qu'il y a des choses qu'on peut répéter relativement facilement, alors que des motivations empiriques en prise avec l'actualité, ça implique de les renouveler à peu près chaque année, et c'est donc long et coûteux à faire. Il faut aussi faire des graphiques, faire des tableaux, etc. Et ça, ça prend du temps. Donc, je pense qu'il y a des explications très simples, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut trouver des manières de mettre des incitations dans le bon sens. En tout cas, c'est une des choses qu'on apprend normalement dans notre métier. Voilà, ça, c'est les principaux points que je voulais dire sur l'enseignement. Je vais peut-être pas vous monopoliser la parole. Donc, je vous laisse continuer.
Oui, peut-être,
Olivier
Favreau, réagir. Entre autres, sur l'autonomie de l'université, la spécialisation progressive, un peu d'interdisciplinarité quand même. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent permettre de repenser l'enseignement à l'université en économie ?
D'abord, je te remercie à toi, Pascal, et puis à la FSE de m'avoir invité pour participer à ce débat autour d'un rapport dont je voudrais tout de suite dire que, en tout cas au niveau de ces propositions, c'est un très bon rapport. Il y a 20 propositions, et bien en fait, peut-être une exception d'une seule, franchement, si tu fais une pétition pour mieux diffuser les réformes que tu proposes, je le signe et je ne serai pas le seul à les signer. Et en même temps, je pense que ce rapport loupe l'essentiel. Voilà. Mais c'est un très bon rapport. Hein, les propositions sont intéressantes. Alors, Pierre-Cyril Auger vous a dit, c'est par rapport, bien sûr, sur l'enseignement de l'économie en France, certes. Toutefois, c'est pas exactement ce que la ministre avait demandé. Si, il s'agissait bien de l'enseignement de l'économie en France, mais le motif pour lequel la ministre s'intéressait au problème. Alors, le ministre s'intéresse peut-être pas forcément aux détails des programmes d'enseignement de l'économie en France. Le motif était très particulier. Et en particulier, il y a un contraste total avec un rapport avec lequel on ne peut pas ne pas mettre en comparaison ce que tu as fait, le rapport de Jean-Paul Fitoussi, qui était au tournant du millénaire vers 2000-2001. Mais je dis tout de suite qu'il y a énormément, c'est même fascinant, énormément de points communs entre les deux rapports, les diagnostics et puis les propositions. Mais nous sommes donc presque 15 ans après le rapport Fitoussi sur le même sujet. Et ce que le ministre a demandé, ce sur quoi il a demandé de réfléchir, certes c'est la question de l'enseignement, mais avec un prisme très particulier et qui là est tout à fait nouveau par rapport au rapport Fitoussi. Nous devons veiller tout particulièrement à maintenir ou même enrichir, alors retenez cette expression, la diversité des options théoriques et des méthodes, des contacts, des passerelles, etc. Phrase suivante, c'est redit. Pour ces raisons, j'ai décidé de vous confier une mission qui aura pour objectif d'analyser la situation actuelle de la filière sciences économiques au regard de ce principe de la diversité des modèles théoriques, des interfaces, etc. Vous serez particulièrement attentif à identifier la manière dont les nouveaux courants et modèles de recherche sont actuellement accueillis en France. Également à apprécier la diversité des compétences. Bon, bref, la ministre, à tort ou à raison, je pense à raison, s'est convaincue qu'il y a un problème du côté du maintien de la diversité des options théoriques dans l'enseignement. Et c'est donc par rapport à cette question, cette énorme question, hein, la question du pluralisme dans l'enseignement de l'économie à l'université, que Pierre-Cyril Auger a fait ce rapport extrêmement sérieux et puis proposé toutes ces fameuses 20 propositions. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir juger ces 20 propositions, que je considère comme excellentes, par rapport à cet objectif. Est-ce que ce sera suffisant pour faire, pour résoudre le problème qui a l'air de se poser au niveau du pluralisme dans les différents courants théoriques qui sont enseignés à l'intérieur de l'université? Et là, encore une fois, vraiment, je rêve d'un monde où les 20 propositions, oui, même la 20e, les 20 propositions, il sait qu'elle est la 20e, seraient réalisées. Mais ce qui manque dans ce rapport, c'est, et au fait, ces propositions qui, vraiment, dans leur esprit, étaient très proches, sont très proches des propositions qui avaient été faites par Jean-Paul Fitoussi il y a 15 ans. Et pourquoi ça ne s'est pas fait au cours des 15 dernières années? Bien sûr, hein, il y a toutes sortes d'innovations, parfois il y a un énorme travail statistique sur la profession, bon, qui n'était pas présent, évidemment, tout à fait de la même façon dans le rapport Fitoussi. Mais donc voilà la grande question, pourquoi ce qui a déjà été demandé, en particulier les rapports entre les disciplines, ce que tu as dit sur les premiers cycles, et notamment la première année, et au fait, pourquoi ça ne s'est pas fait depuis 15 ans? Et même, semble-t-il, si je comprends bien le terme de la lettre du ministre, non seulement ça ne s'est pas fait, mais on a régressé. Et il n'y a pas de réflexion, me semble-t-il, ou pas assez de réflexion dans ce rapport sur, et au fait, pourquoi ça s'est durci au cours des 15 dernières années. Et moi, je pense que c'est lié à la question, bien sûr, du fonctionnement de la section 5, la section 2 de l'économie, sciences économiques, à l'intérieur du CNU, avec beaucoup de choses autour. Et c'est la raison pour laquelle, alors voilà, ça c'est la partie sur laquelle là, nous ne sommes pas d'accord, c'est que l'Association française d'économie politique, en regrettant beaucoup que l'Association française de sciences économiques ne le fasse pas aussi, préconise la création d'une nouvelle section interne du CNU qui s'appellerait économie et société. Et là, Pierre-Cyril Auqueur a pris ses responsabilités, a dit c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais alors du coup, moi ça me permet de lui dire, par rapport à ces 20 recommandations, excellente, c'est est-ce que tu crois vraiment qu'elles réussiront là où le travail de Jean-Paul Fitoussi il y a 15 ans, le travail vraiment unanime, n'a pas abouti. Et d'ailleurs c'est très intéressant de regarder la lettre du ministre de l'époque, qui était son Dieu, c'était Jacques Lang. Ce n'était pas sur la question de « il y a un risque d'extinction du pluralisme des idées dans l'enseignement de l'économie en France ». En fait, c'était essentiellement sur la question du formalisme. Est-ce qu'il n'y a pas trop de mathématiques dans l'enseignement de l'économie ? Cette question est toujours présente aujourd'hui, mais vous voyez, elle est reprise, subsumée, comme on dit, à l'HESS, à l'intérieur d'une question plus vaste, plus grave aussi, peut-être, sur l'avenir de notre profession, qui est la question du pluralisme. Voilà. Mais vraiment, tout ce que tu dis sur ce qu'il faudrait faire en France, vivement que ça se réalise.
Je reconnais bien là la subtilité du raisonnement de mon ancien chargé de TD, qui encense le rapport pour lui dire qu'il manque sa cible. Donc je vais quand même te laisser réagir, peut-être quelques mots sur cette remarque. Avant de...
Tu l'attendais pas, moi, Si on repart du rapport Fitoussi, il a critiqué, il partait d'un excès de formalisme. Et cet excès de formalisme a pour partie été surmonté parce que le travail empirique a acquis une place plus importante aujourd'hui dans la science économique au niveau de la recherche en particulier. Et je ne doute pas que ça ne redescendre, si j'ose dire, vers les manières d'enseigner, même si ce n'était pas encore complètement réalisé partout, etc. Le point sur lequel je pense que nous divergeons peut-être, c'est de savoir si la manière dont fonctionne aujourd'hui la science économique est... et amendable de l'intérieur ou pas. Moi, je pense que pour une bonne part, les difficultés que critique l'affaire, et dont je pense qu'un certain nombre sont justifiées, sont existent, et en particulier, je pense que sur les problèmes de carrière de certains, je pense qu'il y a des difficultés qui peuvent être traitées, et qu'il y a des outils concrets qui sont d'ailleurs... définis dans ce rapport et sur lesquels le ministère a pris ou va prendre position. Je pense que ces points-là peuvent être traités au sein d'une seule section CNU et d'une seule section CNRS et d'une seule discipline. Moi, spontanément, je n'ai pas une immense sympathie pour le CNU, je pense qu'il cloisonne trop. Et d'ailleurs, une des choses qui ont fait le succès de l'école des études, c'est qu'elle n'est pas soumise au CNU. Elle est soumise aux académies pour la vérification de la qualité de ses recrutements. Donc, je n'ai pas a priori d'attachement à la section 05, pas plus qu'à aucune des autres sections du CNU. Simplement, j'ai du mal à penser une autre discipline, alors peut-être que je suis trop borné pour ça, mais j'ai du mal à penser une autre discipline qui aurait ce qui caractérise une discipline, c'est-à-dire une manière de penser, une manière d'aborder une question, une manière de regarder le réel. Pour moi, c'est une sorte de paire de lunettes, une discipline. Les sociologues ont une manière d'aborder un problème, les économistes en ont un autre, ce sont les mêmes problèmes, et ils ne les traitent pas de la même manière. Et il faut simplement que chacun des deux sache que l'autre dit quelque chose de très important qu'il ne peut pas penser lui-même. C'est désagréable, parce qu'on espère toujours pouvoir penser tout, Mais si on prétend penser tout, tout seul, sans structure, on fait du charabia. Ce qu'il faut, c'est avoir une base disciplinaire claire et ensuite dialoguer avec les autres. Et c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait les différentes initiations aux différentes disciplines qui soient incluses dans la formation de chacun, pour clarifier ça. Et moi, je crains que le projet de nouvelle section CNU que propose la FEP, ce soit quelque chose qui soit en fait une juxtaposition ou disons l'addition d'approches économie est quelque chose qui risquerait d'effacer l'identité disciplinaire et en même temps qui aurait comme effet que dans la section actuelle, il n'y aurait pour le coup plus que des gens qui n'éprouvent aucun intérêt pour les autres disciplines. Et je pense que ce serait nuisible aux étudiants des deux côtés. Donc peut-être que c'est mon côté radical socialiste ou le tentative de synthèse exagérée, mais moi je suis persuadé qu'il faut qu'il y ait une seule section au sein de laquelle on fasse se parler des gens qui ont des approches effectivement quelquefois différentes. Et je profite du fait que les deux associations sont actuellement présidées par des directeurs d'études de l'HSS pour leur dire, mais parlez-vous et mettez-vous d'accord. Et je donne la parole à Alfano. Excusez-moi de me baigner de privilège, c'est trop tentant.
Bien, donc je voudrais d'abord effectivement remercier Pierre Cyril de s'être déplacé et d'avoir commis ce rapport très intéressant et que j'encourage non seulement tous les économistes français à lire ce rapport parce que effectivement il est intéressant par son analyse, par ses propositions. Il est également très intéressant par la documentation d'abord en termes de références bibliographiques qui sont très riche, et puis d'autre part en termes de données, je vais d'ailleurs en citer quelques-unes qui sont intéressantes sur le devenir de nos étudiants, qui devraient évidemment tous nous intéresser au premier chef, les carrières des collègues, etc. Donc il y a eu un effort pour, je dirais, baser sur des documents empiriques et sur une très grande, une lecture très abondante de tout ce qui s'était dit sur le sujet. Je voudrais aussi remercier Olivier Favreau d'initier ce dialogue entre les deux associations et j'espère qu'il pourra se poursuivre dans d'autres enceintes, y compris d'ailleurs, par exemple, à la fin. Moi je vais uniquement, dans le bref temps qui nous est imparti, me centrer uniquement sur la question de l'enseignement. Et je vais d'abord prendre le point de vue du marché du travail et me demander si les réformes, les orientations que préconise le rapport Auker sont dans l'intérêt des étudiants du point de vue de leur placement sur le marché du travail. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je crois que le rapport n'est pas explicite non plus sur cette question qui pourrait être approfondie. Alors, il faut tester. On peut faire aussi en économie, je ne sais pas s'il faut faire de l'économie expérimentale ou d'autres formes, mais je voudrais quand même signaler que 3% simplement de nos étudiants trouvent des emplois qui sont éloignés de notre formation. 10% trouvent dans comme statisticiens ou comme économistes. 26% sont dans la banque, la finance et l'assurance. Et donc, grosso modo, on peut dire que 40% des étudiants, quelque part, utilisent, je dirais sans doute, leur formation assez formalisée pour...
Des étudiants diplômés de master.
Vous avez tout à fait raison, les étudiants diplômés de master, disons, le fait qu'on ait une formation assez formalisée pour la valoriser sur le marché du travail. Et que le reste, ce sont des emplois comme cadres dans des entreprises, de manière, ou bien dans le secteur public. Et donc, finalement, que la formation d'économiste permet d'accéder à des emplois de manière assez variée et assez généraliste. Les salaires, excusez-moi de parler, mais là je vais jouer le rôle du bien néoclassique, en disant que les salaires en économie, 1800 euros, économie-gestion, 1800 euros, gestionnaire, 1900 euros, donc c'est le salaire moyen. Alors je ne sais pas si ça a été retraité, je suppose que c'est, disons, en tout cas, les diplômés de mathématiques, master 2000 euros, AES, et je reviendrai sur la filière AES, 1700 euros, sociologie, 1470 euros, Sciences Po, 2500. Donc, en tout cas, je pense qu'une réflexion qui pourrait être menée par les économistes, une question de recherche pourrait être savoir si on change le curriculum, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de dire quelque chose sur là, ce que ça va entraîner comme répercussion sur les débouchés de nos étudiants. Deuxième type de remarque, c'est sur l'enseignement et l'évolution de la discipline. Je pense que ça serait difficile de préconiser des réformes de la discipline qui n'iraient pas dans le sens de l'évolution intellectuelle de celle-ci. Or, j'observe que s'agissant d'abord de la microéconomie, donc au sens large, elle est devenue quelque part absorbante depuis 20 ans et elle a intégré grand nombre de critiques qui avaient été développées, je dirais, jusque dans les années 70. Et à ce titre-là, je dirais que le mainstream microéconomique n'a jamais été aussi divers. Il n'y a jamais eu autant de demeures dans la maison du père. Le rôle des institutions, je cite quelques noms comme ça au niveau international, ça, enfin, Daron Acemoglu, la finance comportementale Luigi Zingales, Bob Schiller qui a obtenu le prix Nobel. Et quand on parle effectivement du fait que finalement même le mainstream est devenu une grande auberge espagnole, eh bien entre Eugène Fama et Bob Schiller, c'est finalement deux façons de comprendre la finance qui ont été distinguées par le prix Nobel. L'économie expérimentale, donc est-ce que Mathieu Rabin est un néoclassique, est-ce que Banerjee Duflo en économie du développement, ce sont des néoclassiques, est-ce que, je dirais, le bon accueil qui a été fait à Kadman et Zversky, qui ont été distingués par le prix Nobel, ce sont des néoclassiques, est-ce que, la façon dont Thomas Piketty aborde la théorie du capital et celle de l'inégalité en fait un néoclassique. La critique de l'utilitarisme, portée par d'abord John Rowland, Armand Thiessen, John Romer, Marc Ferbet, etc. Est-ce que ça en fait des néoclassiques? L'économie géographique, Paul Krugman, avec ce cocktail d'économie, d'effets externes, de rendement croissant et de concurrence imparfaite, qui constitue l'économie géographique. Est-ce que c'est des analyses néoclassiques? L'économie politique, etc. Alors, tout ça pour dire que en microéconomie, ça n'a jamais été aussi divers et que, quelquefois, dans un certain nombre de journaux, on présente des grossières caricatures qui ne peuvent pas être de notre la profession de microéconomiste, qui ne peuvent pas être fondées sur un plan empirique. Alors, en macroéconomie, je dirais que on tourne toujours autour de la version d'équilibre général qui constitue, je dirais, dans le mainstream, le paradigme, avec des versions, je dirais, de plus en plus sophistiquées, des parasynthèses néoclassiques, keynésiennes, l'économie du déséquilibre, les modèles de génération imbriquée, le DSGE, etc. Et donc, il me semble que là, il y a sans doute une difficulté, si l'on veut, faire comprendre aux étudiants les modèles de plus en plus sophistiqués, parce que déjà la notion d'équilibre général est déjà quelque chose, en tout cas si on veut l'appréhender de manière un petit peu rigoureuse, est déjà difficile. Alors après, les versions macroéconomiques de cette théorie d'équilibre général, je pense que là, il y a un écueil pour les économistes à l'échelon licence. Et il me semble que la crise de 2008 n'a pas pour l'instant fait émerger une nouvelle synthèse macroéconomique. Donc, deuxième développement de mon argumentation, c'est qu'au moins sur l'aspect microéconomique, l'économie n'a jamais été, je dirais, quelque part aussi tangente de toutes les autres disciplines, des autres sciences sociales et d'autres disciplines, la psychologie, les neurosciences, la philosophie morale, la géographie, l'histoire, les sciences politiques, la sociologie. Et pour faire le pont avec les méthodes, il ne faut pas oublier que les DIF-ENDIF, ça vient des sociologues, ça vient du sociologue quantitativiste Hollande, qui, et après ça a été importé quelque part par les économistes qui se sont appropriés. Mais ça vient bien d'une autre science sociale au départ. Et donc, le troisième point que je voulais développer sur, je dirais, l'évolution de l'histoire récente de la discipline, c'est qu'elle est devenue une discipline beaucoup plus empirique, avec évidemment la révolution micro-informatique, les logiciels très accessibles, les bases de données très accessibles, et donc les notions de corrélation est beaucoup mieux compris, beaucoup mieux distinguées de la notion de causalité, les expériences contrôlées aussi, etc., nous ont permis de mieux comprendre la notion de causalité. Et puisque j'anime ici à Aix-Marseille un séminaire avec mon collègue Jean Boutier, qui est historien sur la causalité en sciences sociales, il me semble que là, les économistes ont des choses à apporter aux autres sciences sociales dans leur compréhension de la notion de causalité. Donc, tout ça pour dire que si le message du rapport de Pierre Cyril, c'est de dire qu'il faut plus pluridisciplinarité, il faut être plus empirique, je ne vois pas d'obstacle intellectuel, il me semble que l'évolution de notre discipline y conduit naturellement. Et donc, s'il y a des obstacles, donc avec le bémol que j'ai mis sur la macroéconomie, s'il y a des obstacles, je vois plutôt des obstacles additionnels dans la mise en œuvre. Avant de les développer, je voudrais juste faire trois remarques, qui est le fait que quand moi j'ai commencé mes études d'économie en 71 à l'université de Rennes, eh bien, il y avait déjà, ou en tout cas, il y a peut-être eu, oui, je sais qu'il y a des Rennais, ils pourront intervenir pour dire si ça a évolué depuis, mais en tout cas, il y avait, je dirais, trois blocs de matières. Il y avait micro-macro comptabilité nationale, comptabilité privée. Il y avait un deuxième bloc qui était technique quantitative, maths, stats, etc. Et il y avait un troisième bloc où on était dans le deuil, on avait une obligation de prendre, de suivre des enseignements d'une autre discipline, histoire, droit, sociologie, sciences politiques, etc. Donc, je dirais qu'il y a peut-être eu, je dirais, un durcissement disciplinaire à un moment donné, mais ces propositions ne sont pas fondamentalement nouvelles. Et je voudrais également l'illustrer par le fait que l'Université de Nanterre s'est très tôt distinguée en créant des bilicences. Il y a eu la licence anglais économie, mais il y a eu une licence droit économie. J'ai parlé avec Jean-Marc Vittori qui m'avait dit qu'il y avait eu des licences histoire économie, etc. Et je suis peut-être éventuellement, c'est peut-être une différence, je pense que enseigner toutes les disciplines en même temps, ça peut être un petit peu difficile si on a affaire à des étudiants qui ne sont pas exceptionnellement brillants. Et donc peut-être que le compromis de partir sur deux disciplines pourrait être envisagé. Enfin, il me semble qu'il ne faut pas séparer théorie et empirique, et qu'il faut plutôt intégrer dans chaque cours, et c'est beaucoup plus facile, maintenant c'est même très facile, de mélanger dans chaque cours des aspects théoriques et des aspects empiriques. Maintenant, je voudrais terminer par des obstacles concernant la mise en œuvre du programme que Pierre Cyril a présenté dans ses grandes lignes. Et là, je voudrais ici revêtir mes avis d'économistes publics en disant que si on a, disons, en objectif, on s'est mis d'accord sur un objectif, pour une politique économique ou sociale, ou ici une politique éducative, il faut encore se demander comment la mettre en œuvre. Et là, je rejoins le propos d'Olivier pour dire que ce n'est pas parce qu'on va énoncer que ça va se mettre en place. Il faut regarder quelles sont les stratégies des différents acteurs qui vont intervenir, comment est-ce qu'ils raisonnent et quelles sont les contraintes qui pèsent sur leurs décisions. Et ici, je voudrais parler de trois acteurs qui vont être importants pour savoir si ces réformes peuvent être mises en œuvre. Les collègues, bien évidemment, les étudiants et les directeurs du FR. Alors, premier obstacle que je vois du côté des directeurs du FR, c'est effectivement que l'université n'est pas organisée, et c'est une différence évidemment avec l'école des hautes études, mais c'est aussi une différence avec les universités américaines. Elle n'est pas est organisée d'une manière cylindrée en bloc disciplinaire, et ça, ça pose évidemment des difficultés, ce qui fait que par exemple, nous le savons tous, nous préférons donner des cours à des économistes qu'à des étudiants qui sont d'autres disciplines. Et c'est vrai pour toutes les autres disciplines. Si bien que je dirais qu'il y a un peu un déclassement lorsque on vous propose un cours à des non-spécialistes. À tel point qu'il y a, je dirais, des stratégies de contournement qui sont établies par les directions du FR qui essaient à ce moment-là de recruter des, par exemple, des juristes en faculté d'économie ou des économistes en faculté de droit, mais on sait que ces postes sont considérés comme moins attirants. Donc, il me semble que là, il y a un certain nombre de difficultés qui sont en plus supplémentées par le fait qu'il peut y avoir des difficultés géographiques. Nous ne sommes pas organisés en campus dans beaucoup d'universités françaises, ce qui fait que lorsqu'on doit prendre des cours ailleurs, eh bien, il y a des problèmes matériels qui peuvent être à saisir. Deuxième difficulté du côté des étudiants. Alors, je dirais que les propositions de Pierre-Cyril Ockert, elles ont été finalement mises en œuvre. On a des expériences. D'abord en 1870, après la création de Sciences Po. Et puis en 1971, avec la création de la filière AES. Je rappelle que les filières sciences éco ont été créées en 1966-1967, mais 5 ans après, on crée administration économique et sociale. Et moi, ce que j'observe, c'est que les étudiants, soit les Sciences Po a attiré, je dirais, l'élite étudiante, et l'attire même de plus en plus, à tel point que là, effectivement, Sciences Po mord sur notre marché. Donc, quelque part, le modèle de Pierre Cyril a l'air de marcher, c'est-à-dire qu'effectivement, les meilleurs étudiants ont l'air de trouver que la formation de Sciences Po est plus intéressante que la formation de sciences économiques. Mais en même temps, eh bien, avec eh bien, les 40 ans d'expérience qu'on a sur la filière AES, on se rend compte aussi que la pluridisciplinarité peut être aussi choisie par les étudiants qui sont en difficulté scolaire. Et j'ai moi-même enseigné, quand j'étais à Rennes, en filière AES, je sais de quoi je parle. Toi aussi. Écoute, ça fait... Mais le mot AES, d'ailleurs, n'apparaît pas dans le rapport. Donc, en tout cas, il n'est pas ce succès très relatif de cette filière. Donc, quelque part, la question que j'ai envie de poser à Pierre-Philippe, c'est... est-ce que tu veux recréer une autre filière AES et qu'est-ce qui va empêcher que ça soit une deuxième, quelque part, fiasco. Et la troisième, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'intérêt que les collègues vont avoir de participer à cette aventure. Alors, d'abord, je voudrais tenir un propos légèrement paradoxal. Je ne suis pas un chaud partisan du concours d'agrégation, mais je voudrais souligner simplement qu'il peut y avoir difficulté, un conflit d'objectifs. Parce que finalement, dans son travail d'enseignement, Pierre-Cyril Ockert nous attend de nous à ce qu'on soit des spécialistes quelque part, à ce qu'on fasse des cours qui, dans une certaine mesure, soient moins étriqués. Et en même temps, c'est quelque part ce que les leçons au cours d'agrègue on essaye d'inculquer aux candidats. Si bien que la suppression du concours virtuelle, en tout cas, telle qu'elle est inscrite dans le futur, dans le futur décret, je ne suis pas sûr que ça va mener à des collègues qui seront spontanément, qui auront spontanément envie, je dirais, de se déprendre de vouloir enseigner leur recherche auprès de n'importe quel public étudiant auquel ils seront confrontés. Et donc, je voudrais dire que cette difficulté existe dans toutes les disciplines et qu'elle a été résolue, je dirais, soit en faisant un concours, je dirais, un peu pédagogique, avant de commencer des recherches. C'est la grecque du secondaire dans les disciplines mathématiques, physique, etc., histoire. Ou bien c'était dans les disciplines à agrégation supérieure, en faisant cette épreuve un peu pédagogique, après avoir prouvé, je dirais, un certain, d'être capable de faire un certain nombre de recherches de niveau. Et que donc, si on supprime quelque part la grecque du supérieur, il faut se demander comment est-ce que spontanément les économistes vont développer des facultés pédagogiques supérieures à celles des autres, de leurs collègues des autres disciplines qui, eux, ont besoin, en tout cas apparemment, du concours d'agrégation pour asseoir, je dirais, ces qualités. Et je finirai en disant que pour que les collègues fournissent finalement plus d'efforts pédagogiques, on peut évidemment se baser sur leur motivation extrinsèque, motivation intrinsèque, pardon. Mais bien évidemment, et ça c'est souligné dans le rapport, on ne peut pas s'attendre à ce qu'en moyenne, la question des incitations et la question du déroulement de carrière, la question de la valorisation de l'engagement pédagogique ne puisse pas être ne soit pas en ligne de mire des gens qui vont faire cet effort pédagogique. Et donc je voudrais ici relever une très légère contradiction dans le rapport au sujet de l'évaluation des enseignants. En effet, je ne vais pas vous infliger la lecture, mais il y a deux endroits du rapport. Un premier endroit du rapport où on dit il faudrait que les enseignants soient évalués par les étudiants, mais c'est uniquement pour que les enseignants soient s'améliorent, mais il n'y aura aucun effet sur leur carrière, il n'y aura aucun effet. Et dans un autre endroit du rapport, on nous dit, eh bien, les notations, enfin je dirais, les évaluations des étudiants pourraient rentrer en ligne de compte comme paramètre jouant dans les promotions des collègues. Alors j'aimerais bien savoir un peu plus, c'est ma question plus directe à Pierre Siri, je voudrais savoir ce qu'il pense finalement du modèle des business schools américaines, parce que ça on sait que c'est un modèle où, et on a des collègues qui travaillent, l'évaluation des enseignants, des étudiants par étudiants joue un rôle important dans la teneur et dans l'évaluation et dans le niveau de salaire, etc. Est-ce que c'est un modèle de ce type qu'il voudrait promouvoir? Et et si c'est pas le cas, quel type d'évaluation externe veut-il mettre en place? Est-ce qu'il, par exemple, il voudrait que ce soit rendu obligatoire que, par exemple, toutes les notes de cours soient sur les sites web pour ce qu'il y ait une sorte d'évaluation par les collègues, parce que c'est pas les étudiants, c'est les collègues. Enfin, j'aimerais là qu'il soit plus explicite, parce que c'est vraiment un point sur lequel on a toujours buté pour, je dirais, prendre en compte les investissements pédagogiques des collègues. Voilà.
Bon, je crois qu'au-delà des réactions, c'est pratiquement le tome 2 du rapport qui est proposé. Je tiens à signaler que je suis déclassé depuis longtemps en faisant un cours interdisciplinaire à l'ENS où on n'a pas de problème du FR. Et généralement, ça marche très très bien et ça éveille pas mal de vocations en économie. Donc il y a des solutions très concrètes pour faire cela. Par rapport aux questions que tu posais, il serait aussi intéressant de regarder quand même les chiffres sur le fait que les effectifs baissent à la fois en économie, en gestion, visiblement, et aussi en AES, très nettement. Donc, qu'est-ce qu'on fait face au fait que les effectifs baissent? Deuxièmement, quand on regarde l'insertion professionnelle, elle est à peu près égale partout et de très bonne qualité. Au bout de 30 mois, il y a 9% à peu près d'étudiants qui n'ont pas trouvé d'emploi quelles que soient les filières. Et malgré tout, il ne faut pas oublier le chiffre, que réussissent leur licence en 3 ans que 27% des étudiants. Donc, est-ce que dans les solutions d'Alain Tranois, il y a des choses qui permettraient de modifier ces données très lourdes, malgré tout, concernant les étudiants en premier cycle?
Oui, parmi les données, il y a le fait qu'un étudiant d'AES, dont on sait que le régime social est inférieur en moyenne à ceux des étudiants d'économie, et c'est quand même donné la note, c'est vraiment extrêmement frappant, gagne en salaire de sortie 1% de moins. Donc, en réalité, sur ton critère, là...
Oui, c'est pour ça que je te demandais comment est-ce que vous aviez...
Voilà. On a essayé de regarder. Bon, on a obtenu une partie des données individuelles, on n'a pas encore complètement. Il y a un des deux assistants de recherche qui ont travaillé sur ces données qui commence une thèse, maintenant, là-dessus. Donc, il va pouvoir nous apporter plein d'informations. Et une des choses à laquelle j'appelle, c'est que ces questions ne soient pas faites par un rapport tous les 10 ou 15 ans, mais que les associations se saisissent de ça et que les étudiants travaillent dessus, les collègues travaillent sur ces questions, qui sont des questions importantes. Aux États-Unis, il y a une revue scientifique de l'Association américaine d'économie qui traite des questions de formation, qui évalue les curriculums, etc. Et c'est ça qui fait une véritable évaluation, c'est-à-dire que c'est pas les étudiants qui notent les profs, pour répondre à ta dernière inquiétude. Je pense que les remarques des étudiants sur les cours sont très utiles aux enseignants pour améliorer leurs cours. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai sur mes propres enseignements. Mais ce qui permet d'évaluer, c'est d'introduire quelque chose auquel je tiens beaucoup, dont on ne va pas parler, mais qui est d'avoir une véritable gestion des ressources humaines dans les universités. Chose qui n'existe pas. Jamais. J'ai passé un certain nombre d'années à enseigner dans différents établissements. Jamais je n'ai eu un doyen, un directeur du FR, etc., qui m'a dit « Mais voilà, discutons de ce que tu dois enseigner, de quelle manière, comment ça s'insère dans le cursus, etc. » Peut-être que c'est une expérience particulièrement dramatique, mais de discussion avec un nombre de collègues, ça ne semble pas être unique. Bon. Donc ces questions-là sont importantes, nous devons travailler plus collectivement sur nos manières d'enseigner, etc. Et je crois qu'il y a une véritable révolution à faire, et c'est ce que j'appelais au début, sur l'organisation de cursus et la liberté des universités doit permettre de réinventer très largement des cursus. Alors, il y en a qui marchent très bien, tant mieux, et à ce moment-là, peut-être qu'il ne faut rien faire. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui pourraient marcher mieux, qui pourraient s'adapter plus à des étudiants, et qui, se spécialisant, attirerait des étudiants qui seraient directement motivés par ce cursus un peu plus spécifique. Et quand je dis spécifique, c'est dans sa conception, c'est pas plus étroit, hein, vous l'aurez bien compris, c'est large, mais selon des combinaisons adaptées. Et c'est ça qui fait du pluridisciplinaire qui marche par rapport à celui qui peut ne pas marcher. C'est s'il est bien conçu, bien ordonné, bien motivé avec des collègues qui... se coordonnent pour travailler correctement, que l'on a ce genre de choses, pas si on force à enseigner dans une filière qui est déconsidérée des profs venant de différentes disciplines dont aucun n'a envie d'y aller. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut faire la similarité par le haut, pas comme zone de relégation. Ça a des coûts, et je suis d'accord que ces choses-là auront aussi un impact sans doute budgétaire, ou en tout cas, à mon sens, s'il y a sans doute des problèmes sur les salaires, il y a aussi surtout des problèmes sur les services. Et je pense que les services sont trop importants pour qu'on puisse demander aux gens de retravailler profondément leurs enseignements de manière aussi fréquente que ce qu'on devrait faire. C'est les principaux points sur lesquels je voudrais intervenir, hein, sinon il y en aurait certainement des tas, mais
Oui, peut-être laisser la parole aussi à Olivier. Je pense entre autres qu'il y a une donnée là sur ce qu'on appelle le taux de pression qui est dans le rapport, où quand on regarde en effet ce qu'il appelle la pression sur les postes de maître de conférence, ben, le rapport entre le nombre de candidats qualifiés postulants et le nombre de postes ouverts, le ratio le plus bas, pratiquement, c'est celui qui est en économie. Est-ce qu'il y a un lien, vous pouvez imaginer, entre le mode de recrutement à ce moment-là et le type d'enseignement finalement qui tendrait à s'imposer à l'université en économie.
Belle transition. Je vais enchaîner, enfin tu m'y invites, mais je vais enchaîner sur les propos d'Alain, parce que évidemment quand on l'écoute, on se dit mais il y a tellement de diversité à l'intérieur du mainstream, on se demande par quel, sans doute un moment de folie, la ministre a dit mais il y a peut-être un problème autour du pluralisme en économie et on va confier au président de l'école des hautes études un rapport sur cette question. D'une certaine façon, le monde un peu bisounours que nous a présenté, Alain, c'est la confirmation du fait qu'il y a bien un problème de pluralisme, même si, si on avait un petit peu plus de temps, je pourrais être un tout petit peu moins carré, mais peut-être à peine moins. Et puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais vous donner effectivement des chiffres qui sont certainement à l'origine de l'inquiétude ministérielle, que ne partage pas entièrement donc mon grand ami Alain. Alors voilà, entre 2000 et 2011, on a recruté 209 nouveaux professeurs sur un stock qui est de 558 professeurs en 2011. Alors nous avons regardé très attentivement à la FEP, qui avait été comme ça, on se connaît, on se lit tout de même les uns les autres, puis on est assez grand pour se faire son opinion sur l'orientation intellectuelle des uns et des autres, tout en, en remarquant effectivement toutes les nuances qui colorent le monde enchanté du mainstream. Et alors le résultat, c'est que sur ces 209 nouveaux professeurs, en 11 ans, 84,2% consacrent leur recherche au mainstream, 5,3% à l'histoire de la pensée économique, 10,5% à des choses qu'on va appeler des analyses hétérodoxes. Alors le point très intéressant, c'est que, vous voyez le déséquilibre, ce déséquilibre est en train de s'aggraver pour tendre vers une limite naturelle, très naturelle, puisque la moyenne que je vous ai donnée, 10,5% de nouveaux professeurs hétérodoxes en l'espace de, entre 2000 et 2011, en fait c'est une moyenne. Le nombre était de 18% de 2000 à 2005 et il est tombé à 5% de 2006 à 2011. Soit, oui, il était raisonnable, hein, pas très élevé, mais raisonnable, 18% de 2000 à 2005, et bien c'est divisé par 3 depuis une décennie. Je pense que personne ne peut se satisfaire de ce, d'une telle évolution, et ça explique en grande partie la raison pour laquelle il a fallu aller chercher quelqu'un comme Pierre Cyril, n'est-ce pas, pour réfléchir sur cette question. D'autant que vous comprenez bien, hein, on ne va pas faire des... Il n'y a pas besoin, je suis sûrement dans de grands spécialistes des analyses stock-flux. Il y a un effet d'inertie considérable. Et si sur 15 ans, eh ben, on recrute pratiquement plus de professeurs hétérodoxes, il suffit de prolonger un tout petit peu la tendance et eh bien, il n'y aura plus de master hétérodoxe, il n'y aura plus... ou plus suffisamment de professeurs hétérodoxes pour diriger des thèses qui ne sont pas strictement dans le mainstream. Mais il est vrai que le mainstream, il a beaucoup de demeures dans la maison du père, c'est une maison qui est généreuse. Si j'avais le temps, je ferais bien un petit peu de philosophie des sciences, et je vous dirais que, bien sûr, je l'enseigne. Je sais très bien qu'il y a de la diversité à l'intérieur du mainstream, mais cette diversité-là, elle va porter sur ce que Lakatos appellerait les hypothèses auxiliaires. Elle ne touche pas à ce qui fait partie du noyau dur, des hypothèses vraiment fondamentales. Et une profession qui se sélectionne, qui se critique uniquement au niveau de ses hypothèses auxiliaires, au bout du compte, ça devient une maison très étroite, sans en dehors du fait qu'il y a toutes sortes de situations individuelles. Je parle pour beaucoup de jeunes collègues, Il y a toutes sortes de situations parfaitement inéquitables qui ont été créées. Et je vous demande d'être sensible, puisqu'on parle beaucoup des relations avec les autres disciplines. Écoutez un peu ce que les autres disciplines disent du comportement des économistes, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'école des hautes études. Le portrait n'est plus tellement bisounours. Et donc je conclue, puisque on est confronté à quelque chose qui n'est pas d'ailleurs entièrement propre à la France, qui est un effet de système, et c'est un système qu'il faut réorienter, et ça ne se fera pas par des propositions, pas uniquement, avec des propositions sympathiques, mais dont le passé nous a montré qu'elles avaient échoué, parce que, précisément, il y a un effet un peu systémique, et il y a toute une dynamique qu'il faut enclencher de façon inverse, et pour ça, il faut quelque chose d'un peu vigoureux, quelque chose, on va voir, comment l'appellerais-je, comme un choc de compétitivité, un choc de concurrence. Eh bien, je crois que la création d'une nouvelle section, ce serait l'équivalent, je le dis avec une certaine tristesse, je crains que ce ne soit indispensable pour créer, eh bien, de nouveau, de la concurrence entre nous. Ce qui veut dire plus de choix pour les étudiants, plus de choix pour les enseignants, plus de choix pour les décideurs. Je ne veux pas être trop long, donc...
On a peut-être le temps de prendre quelques questions aux différents intervenants.
Philippine Courtimane de la Banque Centrale Européenne. Et je voudrais faire écho à ce que vient de dire Olivier Favreau. Cet effet de système, je le sens dans une institution européenne où au début on recrutait auprès de l'Association Européenne des Sciences Économiques, par exemple. Et puis on s'est mis à aller recruter les chercheurs aux États-Unis, en disant que le job market était plus important et que de toute façon on allait aussi trouver des Européens là-bas. Et ceci crée un phénomène de mainstream accentué qui ensuite redescend, surtout l'intellectuel, au sein des institutions et du coup sous forme d'incitation aux étudiants à aller dans le système anglo-saxon pour pouvoir être recruté aussi par les institutions européennes. Et je pense qu'il y a un réel phénomène de concentration des profils. Alors qu'on a vu à travers la crise en particulier que tous les modèles ESG, etc., sur lesquels on avait massivement recruté, en tout cas chez nous à la Banque Centrale Européenne, n'avaient pas beaucoup aidé. Et en plus de cela, vient s'ajouter une course au crédit pour les universités, l'enseignement que l'on voit à travers l'Europe et aussi en France, ce qui m'a frappé, parce que ça fait 15 ans que je vis en Allemagne, et on regarde ce qui se passe en France, et les universités ont un peu changé de profil, il faut publier dans les travaux de recherche, etc. On arrive à une course à de l'empirisme, en effet, à des approches qui vont être lues par des pairs, et une certaine concentration vers tous faire la même chose, parce que c'est ce qui va pouvoir être publié. Et de plus, pourquoi pas utiliser les données américaines, parce que les journaux les plus primés sont les journaux américains, donc c'est pas la peine de s'intéresser aux données européennes. Tous les fonds publics vont même financer de l'extérieur un peu en utilisant les données les plus disponibles globalement, plutôt les études américaines, par exemple. Et moi, j'ai vu ce phénomène au sein d'une institution, mais je pense qu'il a des effets très larges sur l'ensemble de l'Europe et des incitations pour les étudiants, les professeurs. Et donc, je suis contente que la ministre ait demandé un rapport pour maintenir la diversité, d'autant plus que dans les phénomènes de crise, on s'aperçoit qu'il faut revenir à la pensée économique, à la comptabilité, à des tas de choses qui avaient été oubliées dans l'institution.
Je suis sensible à ça, c'est un des points de départ effectivement de notre réflexion. Je ne suis pas tout à fait certain que la proposition consistant à faire dicter par le ministère l'obligation de diversité soit une solution efficace. Je pense que ce sont d'abord les commanditaires, ce sont d'abord les universitaires eux-mêmes qui doivent dire qu'ils veulent des choses, des approches différentes. Je ne veux pas en rajouter sur la publicité pour le HESS, mais il y a un livre qui en ce moment a un certain succès à l'échelle internationale, qui est traduit dans 25 langues, et qui a vendu 400 000 exemplaires en quelques mois, et ce n'était pas exactement ce qu'on peut appeler au départ quelque chose de complètement mainstream. C'est un livre qui est fondé sur une analyse empirique, qui essaye de dégager des faits stylisés originaux, qui, après 10 ans de travail, a réussi à convaincre en publiant dans les plus grandes revues internationales et en publiant des livres de 750 pages en petits caractères avec 100 pages de tableaux, qu'on pouvait aborder certains problèmes différemment, et je pense avec une filiation qui est extrêmement diversifiée en termes d'héritage théorique. Moi, je pense que c'est ça que les économistes peuvent faire pour renouveler leur manière de penser. Et s'il y a 50 personnes qui font ça, on aura de la diversité. Voilà, simplement, il faut que nos collègues, effectivement, aient conscience du fait que c'est ça leur mission et pas de se reproduire en petits groupes. Alors peut-être qu'effectivement, mes propositions sont trop optimistes. Moi, je pense que la concurrence entre les établissements, telle qu'elle est permise aujourd'hui, beaucoup plus, aura beaucoup plus d'effet que de rajouter un tube supplémentaire dans une institution totalement archaïque qu'est le Conseil national des universités. Mais on peut diverger sur ce mouvement.
Et de fait, on diverge. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois qu'au-delà de la question de la diversité, on vient de toucher à l'instant, me semble-t-il, ce qui détermine le marché du travail, qui est quand même ce qui pour nous est important, nous autres enseignants, je crois qu'Alain le rappelait, eh bien, c'est cette capacité finalement à démontrer, en tant qu'économiste, notre valeur ajoutée auprès du décideur, quel que soit son niveau. Et dans les propositions que j'ai lues avec beaucoup d'intérêt, c'est vrai que cette question de la place de l'économiste auprès du décideur, qu'il soit hétérodoxe ou orthodoxe, avec ses outils, avec son regard, me semble pouvoir éventuellement être traitée dans un troisième tome, parce que je crois que là est finalement l'essence du problème. Il y a, me semble-t-il, une forme de décrédibilisation de la capacité de l'économiste à utiliser ses outils, quels qu'ils soient, d'autres ont pris leur place. Dans certains secteurs, c'est très net. Alors la banque finance assurance, on voit le rôle des économistes. Dans d'autres secteurs d'application de l'économie publique, on le voit beaucoup moins. Et je prends pour exemple le domaine que je connais un petit peu mieux, qui est celui de l'économie de la santé, où les spécialistes de santé publique ressembleraient potentiellement à ceux d'une filière d'économie et société, sont devenus les grands spécialistes qui sont auprès du décideur, les économistes n'y sont plus. Et je pense que c'est à nous de montrer qu'avec nos outils dans leur ensemble, et de manière assez œcuménique et bisounours peut-être, parce que nos regards sont complémentaires, le vrai combat, il est ailleurs.
Écoutez, on va peut-être conclure cette table ronde sur ces remarques. On aura d'ailleurs le plaisir de retrouver Pierre-Cyril Auqueur le 13 novembre dans le même amphithéâtre sur une problématique qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est l'insertion professionnelle des étudiants, sur laquelle j'ai tenté d'insister aujourd'hui. On fera venir environ une dizaine de délégations d'étudiants qui auront travaillé en disant voilà ce qui fonctionne bien dans notre faculté, voilà ce qui pourrait mieux fonctionner. La conférence des doyens a décidé de s'associer officiellement, donc on aura les doyens aussi qui pourront réagir. Et on partira cette fois-ci, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler le terrain, voir réellement aujourd'hui ce qui se passe dans un certain nombre de facultés. N'hésitez pas à participer, à réagir, parce que je pense que ça peut aussi beaucoup enrichir le débat qu'on a commencé à avoir aujourd'hui, qui va se prolonger. Merci.